France Culture, les matins d'été.
Nous sommes à Tijuana, au Mexique, ville frontière, ville violente, plus encore ce quartier, la Zona Norte ou Nick. Vétéran américain est venu s'oublier dans la drogue après sa troisième mission en Irak, celle au cours de laquelle son unité a sauté sur une mine. Abîmé par la vie et l'héroïne, il rencontre Anna, jeune mexicaine à la recherche de son frère, ancien marine expulsé des États-Unis et disparu ici. Chargé par les narcotrafiquants de la convaincre de quitter la ville, Nick au contraire s'attache à elle. En tout cas, décide de l'aider dans sa quête. Ainsi commence Tijuana Bible, votre nouveau film en salle demain. Bonjour Jean-Charles Hu. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tout part donc de cette ville, Tijuana, TJ, que vous connaissez bien, où vous vous êtes rendu à de nombreuses reprises, que vous avez déjà filmé. Qu'est-ce qui vous intéresse tant chez elle ?
Bonjour, déjà merci de m'inviter pour parler de mon dernier film. C'est une question, peut-être que je pourrais jamais exactement pouvoir totalement la circonscrire, y répondre. Mais pour ce que je peux en savoir aujourd'hui, la première fois que je me suis rendu à Tijuana, c'était à peu près il y a 13 ans. C'était suite à un article que j'avais trouvé dans la presse, entre autres choses bien sûr, parlant de cette ville comme un lieu d'une grande liberté où il n'y régnait pas forcément beaucoup d'argent pour ce qu'on appelle aujourd'hui ou chez nous la culture, mais où les artistes s'exprimaient avec ce qu'ils avaient et comme ils le pouvaient, mais on y sentait une création, une vibration toute particulière. Et cette manière de parler du fait de fabriquer quelque chose, artistiquement parlant, m'intéressait. Déjà d'une part, puis j'avais passé du temps aussi au Mexique, j'avais fait un documentaire. Mais principalement, je pense que ce sont aussi des souvenirs d'abord de cinéphilie avant l'heure, quand j'étais adolescent, face à l'écran de télé chez mes parents, où je regardais tout un tas de westerns, comme on dit aujourd'hui, crépusculaires, c'est-à-dire des westerns voilà, qui se passent principalement à la frontière américano-mexicaine, où les héros finissaient toujours par passer cette frontière pour fuir quelque chose, pour fuir généralement bien sûr la loi américaine, et donc le Mexique était toujours dépeint de cette façon comme un lieu de liberté pour les outlaws ou pour toute personne qui avait quelque chose à fuir. Et moi qui suis toujours un peu en recherche de pas forcément quelque chose à fuir, mais en recherche d'une nouvelle communauté ou d'un groupe de personnes ou un lieu où je pourrais me sentir peut-être plus chez moi finalement. Donc je me suis dit peut-être que c'est là-bas que ça peut se jouer pour moi. Et j'ai été accueilli mais comme ça m'était arrivé dans le monde voyageur chez les gitans, le monde voyageur, j'ai été accueilli très rapidement par tout un tas de personnes extrêmement différentes. C'est ça qui me plaît beaucoup à Tijuana, c'est-à-dire que on est en communication aussi bien avec les gens, qu'ils soient la Zona Norte ou pas, parce que c'est une ville normale, hein, Tijuana, dans le sens où il y a 1,5 million d'habitants. Il y a des gens qui se rendent principalement à leur vie, à leur travail, à leur famille. Mais il est vrai que Tijuana, c'est une ville qui a été inventée pour les Américains. C'est-à-dire, il y a à peu près 150 ans, pour que les Américains puissent se jouir, entre guillemets, de ce qu'ils ne pouvaient pas avoir facilement chez eux.
Se lâcher, quoi.
Voilà, se lâcher. Donc l'alcool, à un moment, était interdit chez eux, comme on le sait, les casinos, alors que là, tout était autorisé, finalement. Donc c'est une ville assez étrange pour ça, qui est finalement une ville de tourisme, même si c'est plutôt une ville de tourisme tournée vers l'alcool et que ce soit aussi malheureusement la prostitution, la drogue, et voilà. Et c'est une espèce de décor qui a été une époque, comme un décor un peu hollywoodien, de toute l'architecture un peu middle century, on s'en est un peu dans les années 50, dans une espèce de New York à la Scorsese, Taxi Driver, un peu décrépit. Et là aussi, je me sens d'une certaine cinéphilie, j'ai l'impression d'habiter certains films que j'ai aimés. Et puis les gens finalement, les personnes qui l'habitent, que ce soit les flics, les prostituées, les déportés qui sont nombreux, tout ça, tant bien que mal, forme une communauté de gens, et puis beaucoup d'Américains. C'est ça dont je voulais parler dans le film, parce que ça, c'est moins connu aussi. C'est-à-dire que beaucoup d'Américains fuient leur pays, mais sans s'en rendre compte. Ils sont déportés, ils se déportent eux-mêmes, finalement, parce que leurs moyens économiques, leur situation psychologique, fait qu'ils n'arrivent plus à se sentir, justement, chez eux, en Amérique, ou difficilement. Voilà.
Alors justement, vous dites que dans ce film, tout est vrai, ou en tout cas, tout vient d'histoires vraies. Alors par exemple, ce personnage de Nick, le vétéran américain, interprété par Paul Anderson, il vient d'où ?
Eh bien, il vient d'une rencontre que j'ai faite il y a 8 ans à peu près. J'étais en train justement de tourner ce que je vais appeler un documentaire, en tout cas un portrait d'un couple de déportés de Tijuana. Un personnage qui venait des gangs et voilà et qui était lui-même à l'occasion bien sûr vendeur et consommateur de drogue comme beaucoup de gens qui survivent là-bas et puis j'avais eu quelques problèmes effectivement pour continuer à filmer ce film puisqu'on m'était un peu tombé dessus à bras raccourcis à Tijuana. Ce qui est dangereux, c'est qu'on vous prenne pour un journaliste. Et des gens m'ont pris pour un journaliste et ils m'ont menacé de mettre fin à ma vie, on va dire.
Vous dites d'ailleurs que à cause de ça, c'est plus facile, ou en tout cas moins difficile, de tourner de la fiction, enfin de dire qu'on tourne de la fiction.
Tout à fait. Ils m'ont mis à la porte quelque part de la zone à Norte, de ce lieu où j'aime filmer, où je filmais, c'est ce jeune couple. Et j'ai décidé ce jour-là de me dire non, comme quelqu'un qui tombe en moto, faut vite remonter parce que sinon, je me suis dit, peu importe le risque, même si bien sûr j'avais peur, je suis pas bête, mais je me suis dit, je vais me donner une journée de plus. C'est moi qui déciderai quand je dois partir de ce lieu. Et par contre, je viens sans caméra. Alors du coup, je suis retourné le lendemain, malgré l'interdiction dans la zone à Norte. J'ai revu mes deux amis qui sont devenus effectivement des amis que je filmais. Ils m'ont dit, écoute, aujourd'hui, allons ailleurs que dans la zone à Norte. T'as des problèmes ici. On a été jusqu'à la plage de Tijuana, parce qu'il y a une plage à Tijuana aussi. Peut-être pas de villégiature, mais elle est sympa. Et je me retrouve là-bas.
Il y a une très belle scène dans le film sur la plage.
Oui, j'aime beaucoup cette scène, merci. Et d'ailleurs, on se retrouve là et on fait la connaissance de deux jeunes Américains. Un qui est surfeur, un peu caricature de surfeur, comme ça, beau gosse, blond, avec sa planche, comme ça, en train de boire un lait de coco. Et puis son copain qui parlait pas, mais qui avait un peu, aujourd'hui on dirait comme le Joker, une espèce de sourire figé en permanence sur le visage. Une trentaine d'années, plutôt malingre, plutôt physiquement un petit bonhomme, quoi. J'aurais jamais imaginé ce qu'il avait vécu avant. Ces deux personnes-là, qui cherchaient eux-mêmes de la drogue, on dit à mon ami Topo, trouve-nous quelque chose. Il lui a trouvé quelque chose. On s'est retrouvé dans une chambre d'hôtel pour pouvoir qu'ils puissent consommer ce qu'ils avaient à consommer. Et au bout d'un moment, mon ami Topo a dit au plus jeune, celui qui est le plus physiquement malingre et qui sourit tout le temps, il lui a dit « Tiens, montre à mon pote Jean-Charles, je ne sais plus comment il m'appelait, de Charlie, montre ce que tu as sur le ventre là. » Et il a retiré sa chemise. Et là, j'ai vu une énorme cicatrice en forme de croix chrétienne, je dis, c'est vraiment la forme qu'elle avait. Et elle était vraiment énorme, c'est-à-dire on sentait que c'était pas une ouverture chirurgicale, c'était une explosion, une déchirure totale, puisque même elle était épaisse de 2 ou 3 centimètres de chair, quoi. Et là, il m'a raconté non pas celui qui avait le sourire, parce qu'il parlait pas, il faisait que sourire, mais Topo m'a dit, ouais, il m'a raconté, en fait, il était en Afghanistan, dans son MV, un Marine, donc... Mmh. Un soldat de la marine américaine ils ont sauté sur une mine et tous ses potes sont morts dans l'MV sauf lui. Il a survécu. Et depuis cette époque-là, il touche une maigre retraite compensatoire de 1 200 $ par mois et donc il ne peut survivre. Que à Tijuana quand on est américain, parce qu'à 1 200 €, à moins de se mettre en plein désert, c'est difficile. Donc il survit, prend de la drogue pour oublier tout ça, et c'est le profit d'un certain nombre plus grand qu'on ne croit d'Américains qui, pour une raison ou pour une autre, plus ou moins violente, plus ou moins sociale, plus ou moins économique, ils finissent par survivre avec ce qu'ils ont dans cette ville de Tijuana au milieu des rejetés de l'Amérique. C'est ça qui est assez intéressant.
Et c'est donc cette rencontre qui vous a inspiré le personnage de Nick dans ce film Tijuana Bible. On va écouter un extrait de la bande-annonce. Alors c'est de l'espagnol et de l'anglais, mais cela permet tout de même de saisir un peu l'ambiance de votre film.
Are you following me, gringo?
Why would I do that, huh?
Are you an American soldier?
U.S. Marine.
Looking for my brother, Ricardo Silva.
Your brother is probably in a hotel room somewhere getting high right now. He'll show up eventually. is TJ.
It's not like that.
Eres la que está buscando pedos en el barrio. Te van a encontrar muerta.
Tus lágrimas no te salvarán del infierno.
You're gonna make her leave TJ, okay?
Maybe Ricardo has a girlfriend and he's okay.
Maybe he don't want to be found. She ain't leaving until she finds him. She's here in Tijuana.
I told you to give her a one-way ticket, carnal.
She thinks she can speak to the fucking dead. You need to get out of Tijuana and leave this city tonight.
How could you?
Extrait de la bande-annonce de votre film Tijuana Bible, Jean-Charles Hu. Dans quelle mesure ce film diffère-t-il beaucoup de ce que vous avez fait précédemment, et notamment de vos films les plus connus, La BM du Seigneur et Mange tes morts, que vous aviez tourné, vous en avez parlé tout à l'heure, avec les gens du voyage?
Bien, j'espère que, enfin, c'est mon souhait en tout cas, j'espère que ça ne diffère pas beaucoup. Enfin, c'était pas forcément un souhait de prendre une route de traverse et encore moins, je dirais, d'essayer de rattraper, malgré ce qu'on pourrait peut-être penser au premier abord, une espèce de mainstream du cinéma. On a décidé on, parce que le cinéma c'est une équipe, hein, c'est un ensemble de personnes, de fabriquer le film faisant le choix de prendre un personnage qui soit aussi un acteur, interprété par un acteur. Donc il y a trois acteurs principaux, oui, qui sont tenus par des acteurs professionnels. Tous les autres sont des gens sans exception qui interprètent leur rôle.
Donc c'est Paul Anderson pour Nick, c'est Adriana Paz pour Anna,
et Noé Hernandez pour le personnage de Topo.
D'accord.
Voilà, et tous les autres sans exception sont des personnages qui sont, pour la plupart, il y en a quelques-uns que j'ai découvert aussi grâce à un de mes amis, Ricardo Silva, là-bas. Mais ce sont des personnages que je connaissais déjà depuis longtemps, comme Yolanda, qui est prostituée à Tijuana depuis... c'est une des rares personnes qui a survécu plus une vingtaine d'années à Tijuana, c'est quand même assez rare, parce que généralement, on a du mal à dépasser les 5 ans. Donc, mon ami Peanut, qui joue le personnage qui est en fauteuil roulant, qui joue une espèce de pusher, etc. Et qui malheureusement est décédé à 7 heures, puisque quelques mois après le film, ainsi que Gordo et puis la femme de Peanut, ils ont été tués par le narcotrafic. Il faut quand même j'en parle pas pour la publicité du film, j'en parle pour le rendre hommage, parce que voilà, ils n'ont pas été tués, heureusement, grâce à Dieu, à cause du film, mais c'est à cause de leur vie et de la vie qu'ils mènent là-bas. Et tous ces personnages-là, que ce soit Jenny la prostituée, qui est une prostituée américaine qui vit à Tijuana, c'est le cas d'un certain nombre d'Américaines là-bas qui viennent se prostituer à Tijuana, parce que là-bas c'est beaucoup plus compliqué pour elles. Et tous ces gens-là sont dans une situation, donc une situation dont je voulais parler, et la difficulté était de prendre aussi des acteurs professionnels pour les amener dans cette histoire-là. Alors pour les acteurs qui sont mexicains, je dis pas que c'était forcément plus facile, mais en tout cas, bon, c'était des choses dont ils ont entendu parler. Pour Paul, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer pour des gens quand même qui sont des gens quand même connus, habitués à certains types de plateaux, pas de confort, je dirais, mais quand même de situations plus ou moins confortables pour pouvoir exprimer leur art. Et heureusement, j'ai eu beaucoup de chance que Paul ne soit effrayé par rien, lui qui a été élevé dans la banlieue londonienne, une des plus difficiles. Donc, dès qu'il est arrivé sur le plateau et qu'il a vu à quoi tout ça ressemblait, il n'a pas fui, quoi, parce qu'il s'est très vite retrouvé à tourner dans les pièces, les chambres où vivent les gens. Je me souviendrai toujours d'une fois où Paul est arrivé à un moment et avec tout le monde, certaines personnes ont une frayeur, hein, parce que il s'est assis sur le lit de Diana avec qui il allait jouer la scène suivante, une histoire de landau pour un landau d'enfant. Et à un moment, je le vois s'asseoir sur un lit avec plusieurs seringues et tout équipé sur le lit. Je me suis dit, voilà, ça, c'est le genre de choses qui normalement ne peut pas arriver, ne doit pas arriver sur un tournage. C'est un coup arrêter le tournage ou avoir de sérieux problèmes juridiques. Il avait très bien vu, et c'est quelqu'un qui sait gérer un environnement de ce type. Et ça nous a beaucoup aidé pour le film, énormément aidé. Et d'ailleurs, on a grâce à ça pu filmer dans la zone Norte, ce qui est la première fois, je le dis bien, la première fois qu'on peut filmer dans la zone Norte, faire un film dans la zone Norte. Tous les autres ont échoué, hein, je le sais, parce qu'il y avait des gens qui avaient essayé, qui étaient dans mon équipe, et ils ont échoué. Et Paul, tout le monde l'a pris finalement pour un vrai Américain qui vient vraiment se droguer à Tijuana, et ils ont cru que c'était pas un acteur, et tout ça, ça nous a aidé.
Paul Anderson, donc, qui joue Nick, justement, Jean-Charles Hu, quelle est la part de documentaire et de pas documentaire dans ces films? Est-ce que, justement, vous départagez les choses comme ça?
Alors, le but, c'est de départager le moins possible, puisque moi, ce que je recherche, c'est le pur accident. Je dirais même, ce que je recherche, c'est la chose qui m'échappe. Moi, ce qui m'intéresse dans le documentaire, c'est, par définition, c'est quelque chose, même si c'est pas facile de contrôler la fiction, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais, c'est justement la vie, c'est-à-dire quelque chose qui va vous échapper, qui va mettre en danger que ce soit votre personne, ou surtout qui va mettre en danger ce que vous essayez de faire et de fabriquer. Et il se crée généralement des choses à partir de là, parce que la vie est bien souvent bien plus, j'ai envie de dire, intelligente que nous, et elle peut vous offrir, et Tijuana, quand elle vous sourit, quand Tijuana vous sourit, fait partie de ces lieux, il y en a d'autres bien sûr dans le monde, qui vous sourit sincèrement et franchement, et vous apporte énormément. Et donc moi, ma quête, c'est un moment de m'ouvrir moi-même et avec l'équipe que j'ai à Tijuana, de façon à ce que Tijuana puisse ouvrir les bras. Et là, je sais que tout peut arriver. C'est-à-dire que les gens se livrent totalement et on peut vivre une aventure humaine formidable. Et pour celui qui aime faire des images, on peut faire des portraits et graver des images comme on le trouvera plus difficilement ailleurs. Donc, moi, mon but, je dirais pas que c'est de mélanger, mais c'est de faire en sorte que je m'y perde moi-même. Mmh. Alors, toutes les scènes n'arrivent pas à ça, puisqu'il y a des scènes plus ou moins avec un décor plus assumé, voilà. Mais toute la partie dans Tijuana, je parle donc plutôt dans la zone Norte, on a fait que provoquer ces situations-là. Et moi-même, j'avais du mal à y croire, même qu'on puisse filmer, parce que moi, j'ai filmé, comme je racontais tout à l'heure, avec difficulté. Et là, avec même 50 personnes, on a réussi à le faire.
Un mot quand même, Jean-Charles Hu, sur le moment de sortie de ce film. Il y a eu hier des chiffres de la Fédération des cinémas français, baisse de 70% de la fréquentation un mois après la réouverture des cinémas. Vous vouliez que le film sorte quoi qu'il en soit. Vous pensez qu'il y a eu une attente de films, de nouveaux films cet été?
Je pense qu'il y a une attente. Le public a apparemment... bien sûr, il y a moins de monde dans les salles, on pouvait s'y attendre. En même temps, je souffre apparemment de moins de concurrence, donc peut-être que ça va rétablir les choses.
Oui, dans l'autre,
voyons
oui.
Les choses concrètement. Et de toute façon, ma plus grande anti, c'était le fait qu'il ne sorte pas en salle. Moi, j'aime le cinéma. Je n'ai rien contre certaines VOD et autres, bien entendu, c'est le marché d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on communique. Mais pour moi, ce film sur lequel j'ai passé 5 ans et quelques de ma vie, ne pas le voir sortir en salle, pour moi, c'était impossible. Ça aurait été un échec cuisant et j'aurais eu l'impression de voir disparaître mon nouveau bébé de partir avec l'eau du bain, quoi. Donc ça, c'était pas possible. Heureusement, il est très bien distribué par Advitam. Les salles ont répondu. On aura à peu près 80 salles et j'en ai jamais eu autant de ma vie. Donc je ne vais pas me plaindre.
Eh bien, merci beaucoup. Merci Jean-Charles Hu d'être venu sur France Culture ce matin. Et Tijuana Bible, c'est donc au cinéma demain.